la culture de chaque pays et l'histoire. Parce que forcément, les jeunes générations, la plupart ne connaissent rien.
Alors, en ce qui concerne l'histoire, vous pouvez être totalement rassuréné dans la mesure où il existe aujourd'hui un manuel commun d'histoire franco-allemand pour ce concile de l'enseignement général. Donc, c'est ouvrage, vous pouvez d'ailleurs trouver à la librairie Kleber, existe d'une part dans sa version française et d'autre part dans sa version allemande. Et cette. Cet ouvrage n'a pas été facile à mettre au point. D'abord parce que on a réuni, c'est normal d'ailleurs, une commission d'historiens français et allemands, une dizaine d'historiens, donc 5 historiens français et 5 historiens allemands. Donc il a fallu, bien entendu, se mettre d'accord sur le contenu des textes. Ça, c'était la première chose sérieuse à faire. Et puis, il y a eu une deuxième particularité dans ce travail préalable à l'édition de ce même histoire franco-allemand, c'est que les programmes, comme le disait tout à l'heure Christine Hoffmann, les programmes varient selon les lenders, puisque les lenders ont la compétence de l'éducation et de l'enseignement. Et la troisième difficulté qui s'est produite d'ailleurs après la publication du manuel, et que le ministère français de l'Éducation nationale a changé les programmes, ce qui a mis nos amis allemands dans une irritation qui est tout à fait compréhensible. Mais ce manuel existe, et là, madame, vous mettez le doigt sur une question qui concerne toutes et tous, c'est la question de la nation et la question du nationalisme. Ce nationalisme qui a été la clé absolue à cause de laquelle les guerres intra-européennes ont eu lieu pendant des siècles, ce nationalisme en particulier attaqué à juste titre par Coloman, un des enfants de Thomas Mann, qui a beaucoup écrit sur la question du nationalisme dans sa magnifique histoire allemande du 19e et du 20e siècle. Or, la question du nationalisme est une question fondamentale à prendre en considération dans les discussions que nous avons sur le rapport entre la France et l'Allemagne et sur les rapports entre les États et les pays de façon générale, puisque la vision du monde dans laquelle, selon que l'on est en Espagne, en Italie, à Budapest, à Londres ou ailleurs, évidemment, est organisée à partir d'un pays qui est ressenti comme le centre du monde. Donc c'est l'analogie de ce que Jacques René, le grand sinologue, appelait le phénomène du sinocentrisme, puisque dans ce cours au Collège de France, Jacques René expliquait que dans la tradition de la Chine ancienne, la cité interdite de Pékin était le centre du monde et que par voie de conséquence, l'univers était organisé autour de la cité interdite. Et on peut donner de cela de très nombreux exemples en ce qui concerne la France autant que l'Allemagne, bien entendu, dans des domaines innombrables. Un exemple, par exemple, pris dans l'histoire de la musique. On continue aujourd'hui en Allemagne à considérer qu'il n'est de vérité en matière de musique que dans la musique allemande. Alors c'est la tradition du 19e siècle, c'est la reproduction des théories de Wilhelm von Mengler, puisque Wilhelm von Mengler, le grand chef d'orchestre, dans un texte inédit que j'ai pu me procurer et que je cite dans mon ouvrage, dit que la musique allemande du 19e siècle, c'est-à-dire Beethoven, Brahms, Wagner, est quelque chose d'aussi important pour la civilisation que le Parthénon, et que par la conséquence, la civilisation grecque de l'Antiquité ou que la civilisation italienne en ce qui concerne la peinture. Et aujourd'hui encore, dans les académies supérieures de musique en Allemagne, on utilise encore des manuels d'histoire de la musique aujourd'hui en 2019. évident que les, ceux qui soutiennent ces thèses et qui écrivent ces choses ne savent pas apparemment ce que c'est que le triangle de Weimar. Donc, vous voyez que les uns et les autres, dans tous les pays, hein, c'est évident, ont charrié les préjugés. Et ces préjugés-là, dans l'enseignement d'histoire de la psychanalyse, il y avait des préjugés très très forts en France, juste avant la Première Guerre mondiale, puisque notre cher Camille Saint-Saëns, notre grand compositeur Camille Saint-Saëns, conseillait que, à partir du début de la Première Guerre mondiale, les personnes qui, habitant dans des immeubles où l'on entendait une petite fille ou un petit garçon jouer comme il pouvait un morceau de Schumann ou bien une sonate de Beethoven, devait appeler immédiatement la police. Alors, ça paraît très très amusant, mais relève de la vérité historique, la correspondance, de Camille Saint-Saëns fait apparaître cela. Et on voit bien justement un phénomène qui est très très intéressant, c'est le rapport justement à la culture de l'autre, puisque pendant que, durant la Première Guerre mondiale, la musique allemande, l'exécution de la musique allemande, la vente des partitions de compositeurs allemands sont interdites, prohibées en France. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du Rhin, on continue à jouer de la musique française. Les théâtres d'opéra, Don Carmen, Faust, bon, Faust, on sait pourquoi, en partie, ou encore Mignon d'Ambroise Thomas. Et on voit que quand on fait de la comparistique sur cet aspect, on trouve évidemment des constantes de la psychologie, de la tradition, de la Weltanschauung dans chacun des deux pays.
C'est ce qui est dangereux maintenant.
Vous avez tous les deux un petit peu abordé les questions économiques, mais à mon sens pas suffisamment de manière précise. Alors je vais dire la chose suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que, c'est une question en même temps, est-ce que vous ne pensez pas que la germanophobie qu'on ressent depuis quelques semaines, et peut-être plus en France, de ce côté-ci du Rhin, n'est pas due en fait à un déplacement qui est le fait qu'au fond, nos socialistes solférinien, comme on dit, qui se rapproche tellement d'une politique libérale ou néolibérale, ne peuvent pas en fait critiquer le système économique libéral ou néolibéral, et donc finalement il ne reste que, et c'est pas eux seulement, hein, c'est aussi bien à droite que à gauche du Parti Socialiste, il ne reste que la germanophobie. Quand on entend par exemple, juste un exemple, quand on entend parler du traité Merkozy, hein, donc Merkel et Sarkozy, moi ça me choque. Hein, mais je pense que c'est plus pratique, entre autres pour les socialistes, de dire ça, et d'autres aussi, que de dire que finalement ce qui est en cause, dans toutes les questions économiques qui produisent des millions de chômeurs, la misère et tout ça dans notre continent, c'est plus facile de dire ça que de dire finalement la vérité sur ce système économique et social qui est absolument une catastrophe.
Sur ce qui est aujourd'hui, la doctrine économique en tout cas sur le plan européen, et telle qu'elle est défendue par les libéraux et par la chancelière allemande, c'est une forme de libéralisme qu'on appelle l'ordolibéralisme, qu'elle pratique et qu'elle défend de manière, fidèle à ce que cette doctrine représente, à la fois par rapport à la compétitivité, par rapport à la réduction des coûts, le coût du travail, le coût des retraites, des coûts sociaux, en quelque sorte, la contrainte des coûts sociaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons, dans le débat avec nos amis allemands, qu'ils soient chrétiens démocrates ou SPD, un débat sur la manière d'aborder ces questions-là. Est-ce que nous avons une vision comme celle que la Commission européenne défend, qui est entièrement axée sur la compétition et sur la concurrence, au risque d'assister à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire une concurrence qui ne se porte plus simplement sur les liens qui se portent sur les personnes. C'est ce pourquoi on appelle ces fameux salariés dont je parlais auparavant, les salariés low cost. Ce sont deux choses. C'est à la fois ces agences de placement de salariés moins chers dans les entreprises ou dans le travail intérimaire, mais c'est en même temps Artscaf qui a été mis en place par Schröder. À un moment, nous avions un débat, d'ailleurs, entre Français, socialistes français et SPD sur ces options que nous avons, pour notre part, toujours refusées. Mais nous n'avons pas, et c'est un problème, aujourd'hui un rapport de force qui permet d'inverser totalement une tendance. Par contre, il y a clairement un problème de rupture entre le Nord et le Sud. Certains y voient d'ailleurs, y compris un substrat culturel, voire d'origine confessionnelle, c'est-à-dire l'Europe vertueuse protestante, qui se permet de juger, avec une approche morale de l'économie, les autres, qui sont fautifs. Et il est vrai que lorsqu'on regarde aujourd'hui cette fracture entre le Nord de l'Europe et le Sud de l'Europe, on a, parce que Angela Merkel a créé le Club Med, dans lequel nous met volontiers d'ailleurs, qui sont ces pays dépensiers, il faut dire qu'ils n'ont pas toujours été très corrects non plus, que certains sont touchés par la mafia, par le trafic parallèle, par toutes sortes de choses, mais tout le monde n'est jamais 100% vertueux ou 100% fautif. Donc le problème pour nous aujourd'hui, c'est effectivement de réorienter cette politique et de pouvoir avancer sur... Des décisions, une gouvernance qui soit différente. Le fameux traité dit Mercosy, ça a été, et c'est je crois là une des contradictions qui existent dans la vision de la chancelière, qui a fait des propositions de type fédéral pour améliorer la gouvernance européenne et favoriser l'union politique, mais en même temps, elle a, avec Nicolas Sarkozy, promu de manière absolument, incontournable et constante l'intergouvernementale au détriment des mécanismes communautaires. Et cette méthode politique a renforcé les oppositions, a renforcé les divergences et les confrontations de situations économiques entre nos différents pays. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui, on s'en rend compte, donc le FMI, qui dit, bon, c'est allé trop loin, trop fort, trop vite, etc. Trop vite. Il y a eu un temps, malheureusement, très long, pour pouvoir réagir au premier signe de décrochage de la Grèce. Il y a aussi, aujourd'hui, dans le débat politique européen, un débat intéressant sur la nature de l'échec, parce que nous sommes en situation d'échec. D'ailleurs, les Américains le disent et nous êtes honnêtes. Nous n'avons pas le niveau de dette publique que ont les États-Unis, ni non plus la dépendance comme ils l'ont vis-à-vis de la Chine. Néanmoins, c'est vrai que lorsque l'Europe, qui est le premier marché au monde, tout le monde prend la crève. Et donc, aujourd'hui, il y a vis-à-vis des Européens, et en particulier vis-à-vis des Français et des Allemands, une certaine impatience qui rend aussi les choses plus difficiles, la pression plus délicate, notamment période électorale pour l'Allemagne. C'est clair qu'aujourd'hui, ce que nous vivons sur le plan européen est une longue parenthèse. Personne ne peut prendre de décision franche et définitive parce qu'il y a ces élections, et en particulier parce qu'entre France et Allemagne, on n'a pas les mêmes alliances. Donc, nous avons une majorité en France qui se trouve être l'opposition allemande qui veut reconquérir le pouvoir. Ceci ne facilite pas les choses. Mais ça, c'est l'Europe. Il faut que l'Europe soit aussi politique, qu'il y ait aussi un débat justement sur l'économie. Alors, l'ouvrage de Philippe Olivier n'est pas un ouvrage économique. Bien sûr, il y a évidemment des analyses qui sont fournies dans son texte, dans son livre, dans son écrit. Mais je crois que c'est un débat continu, celui que nous avons de la réponse nécessaire à la crise. La solution doit être franco-allemande.
Alors, en ce qui concerne le thème de la mafia, c'est-à-dire quelques mots sur la mafia. mais la mafia, au sens propre du terme, non pas métaphorique, donc la mafia italienne, avec ses connexions notamment américaines, s'est intéressée dès 1989, les derniers mois de 1989, particulièrement à ce qui était la République démocratique allemande, puisqu'on sait aujourd'hui, par des rapports qui ont été publiés par le Bundesnachrichtendienst, central des services de renseignement allemand, qu'il y a dans le nouveau Länder, ce qui était autrefois la République démocratique allemande, il y a un certain nombre d'hôtels, de restaurants, apparemment, ayant un caractère apparemment familial, bonne pizzeria, gentil, etc., qui sont aux mains de la mafia, et ce qui amène évidemment à toutes les activités foncières, à commencer par celle du blanchiment de l'argent. Par ailleurs, quand on visite Berlin en particulier, on voit qu'il y a énormément de Russes à Berlin, ce qui est la reprise d'une tradition ancienne, parce que je vous rappelle qu'au temps de la République de Weimar, le quartier berlinois de Charlottenburg était déjà surnommé Charlottengrad. Mais parmi les Russes qu'il y a, aujourd'hui à Berlin, bah, évidemment, il y a de tout. Et on sait, d'une façon très claire aussi, que les Russes et les Chinois ont des pratiques un petit peu particulières. Et ce qui est préoccupe aussi beaucoup les autorités allemandes, évidemment les services de police et de renseignement, ce sont les activités délictueuses de la mafia albanaise, elle aussi s'est jetée sur la map. Voilà donc un petit point sur la map. Monsieur.
Merci beaucoup. Monsieur, nous avons à peu près la même carrière du point de vue linguistique et du point de vue de l'apprentissage de la culture de l'autre. Nous sommes venus en Allemagne chez nous pour apprendre l'allemand et la culture. Moi, je suis venu de la médecine, pas pour le français, mais également la culture. Et finalement, pour devenir un voisin de Baral Portman, que je savais travailler ici, avec l'Église. Bon, mais malheureusement, nous n'avons pas tout à fait la même interprétation en ce qui concerne surtout l'aspect économique. Je suis un ancien de l'Université de Freiburg, et malheureusement, vous n'avez pas tellement parlé de l'école de Freiburg, qui, à mon avis, est un fondamental pour l'économie allemande, telle qu'elle se présente à l'heure actuelle. Je me permets de vous rappeler les grands de Freiburg, von Hayek, Müller, Armand. Ensuite, vous avez encore notre ancien ministre de l'économie qui était ensuite aussi ministre, Chancelier, qui a rendu la Deutschland tellement fort. Donc cet aspect est très important. Vous, vous référez à ce qui se passe, vous êtes historien, vous référez à Max Weber. À mon avis, celui qui donne vraiment. L'impulse pour l'économie allemande telle qu'elle se présente à l'heure actuelle, c'est l'économie de France, l'économie de Freiburg. Revenons à un autre aspect qui m'a beaucoup frappé personnellement, également dans le cadre de l'histoire de ma famille, c'est le fameux aspect de l'inflation. Les Allemands sont tellement soucieux d'éviter l'inflation, Mme Grotman le sait, comme ça pose toujours des problèmes dans le cadre des débats entre les Français et également entre les Allemands. Lorsqu'on discute de l'euro, les Allemands ont en tête toujours l'inflation, il faut éviter l'inflation. Et ça, c'était dû, pas au Frédéric le Grand, loin de là, c'est dû à tout ce qui s'est passé en 1929, la grande inflation en Allemagne, où les Allemands sont devenus pauvres. Si vous voulez, pour vous donner un exemple. Donc cet aspect me paraît très important, excusez-moi, donc d'abord que l'on s'en approche. On a dit encore une autre remarque qui me paraît également deux, si j'ai la parole. J'aimerais donc vous dire qu'en France, tout ce que j'ai appris lorsque j'ai dit aux étudiants en France, c'est le système de la planification française. J'ai dit c'est qui de la planification française, énormément, surtout de la planification soutenue. Lorsque je suis donc revenu en France, à Freiburg, mon Dieu, vous aurez dû entendre mes professeurs qui ont totalement démoli. Et on m'a très clairement expliqué, donc à l'époque de la langue de la création, par le européen, etc., ce sont les grands débats au niveau européen qui est mené. Quelle va être l'économie? Est-ce que ça sera l'économie à la française, par l'évitation, l'économie allemande, finalement, l'économie libre, sociale, marché, etc. Donc, je crois que cet aspect a également importance sur le matériel. Et pour terminer, il y a quelques semaines, dans la même salle, il y avait une réunion à propos du livre de M. Duval, Made in Germany. Vous connaissez certainement. Un livre formidable, finalement, qui a montré très clairement la grande différence entre l'Allemagne et entre la France en ce qui concerne la qualité, etc. C'est un livre donc, que je recommande en complémentant votre livre pour la lecture du simple. Ça permet effectivement de comprendre quelle est l'importance du Made in Germany. Et vous le savez tous, M. Bourgogne, surtout, tout récemment, on a créé le fameux Made in France. L'esprit n'est pas du tout la même chose entre les deux Made-Make. Le Made in France, c'est de dire il va acheter français parce que c'est français. Lorsqu'on a créé le Made in Germany, c'était déjà en 1890, si je ne me trompe pas, c'est pour éviter d'acheter allemandien parce qu'il faut surtout prendre un groupement. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer à l'heure actuelle un Made in Europe? On n'a pas encore un Made in Europe.